Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment l'oubli améliore l'efficacité de notre mémoire? Un texte d'Oriane Polge, paru le 9 novembre 2024 dans Science et Vie. L'oubli est souvent perçu comme une faiblesse de notre esprit, mais il joue en réalité un rôle fondamental dans l'optimisation de notre mémoire et de notre adaptation cognitive. L'oubli fait partie de notre quotidien. Qui n'a jamais vécu cette expérience frustrante d'entrer dans une pièce et de ne plus se rappeler pourquoi? Pourtant, l'oubli n'est pas toujours un signe de faiblesse de la mémoire. Des études récentes montrent que l'oubli pourrait jouer un rôle fondamental dans l'efficacité cognitive et la gestion de l'information. Voyons comment et pourquoi le fait d'oublier contribue à l'amélioration de notre capacité mémorielle. Les découvertes clés sur l'oubli. L'un des premiers travaux marquants sur l'oubli remonte au 19e siècle grâce au psychologue allemand Hermann Ebbinghaus. Sa fameuse courbe de l'oubli a révélé que la plupart des souvenirs déclinent rapidement après leur formation avant de se stabiliser. Cette découverte, répliquée par des neuroscientifiques plus récemment, met en lumière un mécanisme naturel permettant de filtrer les informations non essentielles. Ce processus est bénéfique pour plusieurs raisons. Notre cerveau est continuellement sollicité par une multitude de données. Sans l'oubli, il serait difficile de préserver uniquement les informations pertinentes. Ainsi, l'oubli agit comme un tri efficace, évitant une surcharge cognitive. Comment l'oubli optimise le stockage mental? Le neurobiologiste Eric Kandel, récipiendaire du prix Nobel, a démontré selon Science Alert que la formation des souvenirs repose sur le renforcement des connexions synaptiques entre les neurones. Lorsque vous prêtez attention à quelque chose, ces connexions se renforcent et le souvenir devient durable. L'oubli, à l'inverse, survient lorsque ces connexions s'affaiblissent. Ce mécanisme permet au cerveau de supprimer les détails superflus et de se concentrer sur l'essentiel. En oubliant des informations non prioritaires, le cerveau alloue des ressources pour conserver les souvenirs les plus utiles. Cette capacité de sélection est cruciale pour le bon fonctionnement cognitif et l'adaptation à de nouvelles situations. L'oubli et les mécanismes d'adaptation. L'oubli permet également à notre cerveau de s'adapter au changement. Un exemple frappant est la flexibilité nécessaire pour modifier des souvenirs existants. Imaginez un trajet quotidien que vous effectuez en voiture. La route est ancrée dans votre mémoire grâce à la répétition. Cependant, si un détour temporaire se présente, votre cerveau doit affaiblir certains liens mémoriels pour intégrer le nouvel itinéraire. Cette capacité à mettre à jour les souvenirs est essentielle, car une rigidité mémorielle excessive peut entraîner des conséquences négatives, comme dans le cas du stress post-traumatique, PTSD. De plus, d'un point de vue évolutionnaire, oublier des souvenirs obsolètes en réponse à de nouvelles informations a été crucial pour la survie de nos ancêtres. Si un lieu autrefois sûr devenait soudainement dangereux, la capacité d'actualiser cette mémoire permettait d'éviter des comportements risqués. Certaines études sur les rongeurs ont révélé des mécanismes intéressants liés à la mémoire. Des chercheurs ont démontré que même des souvenirs oubliés peuvent être réactivés en stimulant artificiellement les connexions neuronales. En utilisant la stimulation optogénétique, qui combine lumière et ingénierie génétique, ils ont réussi à faire revivre chez les rongeurs un souvenir de peur en activant des neurones précis. Ces expériences indiquent que l'oubli peut parfois signifier que les souvenirs ne sont pas perdus, mais seulement inaccessibles temporairement. C'est ce qui peut expliquer le phénomène du bout de la langue, où l'information semble proche sans pouvoir être rappelée immédiatement. En vieillissant, les connexions mémoristiques peuvent s'affaiblir, augmentant ainsi la fréquence de ce phénomène. L'oubli est loin d'être une simple imperfection de la mémoire. Il s'agit d'un mécanisme sophistiqué permettant à notre cerveau de filtrer, d'actualiser et de hiérarchiser les informations. Bien que des problèmes liés à la mémoire comme la maladie d'Alzheimer aient des conséquences négatives, l'oubli est essentiel pour le bon fonctionnement de la mémoire et l'adaptabilité cognitive. C'était « Comment l'oubli améliore l'efficacité de notre mémoire », un texte d'Oriane Polge paru le 9 novembre 2024 dans Science et Vie.
Visite du nouveau centre de compostage de Montréal. Un texte d'Axel Dansereau-Massias, paru le 17 octobre 2024 dans Québec Science. Un nouveau centre inodore de traitement des matières organiques ouvre à Montréal. Nous l'avons visité pour vous. Jusqu'à récemment, Montréal envoyait la majorité de ses résidus organiques en Ontario ou à Joliette. La ville va désormais traiter ses déchets elle-même. Un nouveau centre de compostage, l'un des rares à être complètement intérieur au Québec, ouvre fin octobre dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Selon Éric Blain, chef de la division du service de l'environnement de la ville de Montréal, cette installation construite par Veolia peut desservir tout l'ouest de l'île de Montréal, en recevant jusqu'à 50 000 tonnes de matières organiques par an. Karel Ménard, directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, voit d'un bon œil cette ouverture promise depuis 15 ans. Les résidus organiques, étant constitués principalement d'eau, ils sont lourds. Les transporter sur de longues distances, ça coûte très cher en carburant et ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, explique-t-il. Quelques mois avant son ouverture officielle, le centre a testé le bon fonctionnement de ses infrastructures. Accompagné d'Éric Blain et de Maxime Roberge, ingénieur environnemental à la ville, Québec Science en a profité pour visiter l'installation. En toute discrétion, de l'extérieur, difficile de deviner que des tonnes de déchets organiques, dont des restes de table, s'y décomposent. Il n'y a aucune odeur. Une station météorologique et trois capteurs mobiles font office de sentinelles des émanations. Les capteurs analysent les molécules de l'air ambiant et s'assurent qu'aucun seuil olfactif n'est dépassé. La limite fixée correspond à une odeur pouvant être détectée par la moitié d'un groupe d'individus. Si on a 10 personnes, il ne faut pas que plus de 5 d'entre elles puissent dire qu'il y a une odeur inhabituelle, illustre Éric Blain. À leur arrivée, les camions de matières organiques se dirigent vers l'un des 4 sas d'accueil du centre. Derrière les portes, la pression négative, c'est-à-dire plus faible que la pression atmosphérique, garde l'air et donc les odeurs à l'intérieur de la bâtisse. La matière organique est déchargée sur un immense tas. Elle suivra un parcours à travers un équipement industriel pour devenir du compost au bout de 8 à 9 semaines, lequel sera vendu à une entreprise qui assurera sa distribution. Le centre reçoit 2 types de matières mélangées. Les résidus alimentaires et les résidus verts, branches et feuilles. Un premier broyeur les réduit, puis un convoyeur amène les débris à un tamis qui ne laisse passer que les morceaux de moins de 8 cm. Un électro-aimant extirpe ensuite d'éventuels contaminants métalliques. Les grandes branches et résidus referont cette boucle maintes fois. Après ce tri, la matière est envoyée vers la zone de compostage actif. Là, elle est enfournée dans un des 9 grands tunnels dont l'odeur putride garde éveillée. À l'intérieur, la température dépasse 55 degrés Celsius grâce à la chaleur dégagée par la matière organique en décomposition. Le mélange est aéré et hydraté par le sol et le plafond pour stimuler l'activité bactérienne. Le compost en devenir y passe une première semaine d'hygiénisation, durant laquelle la chaleur élimine les pathogènes. Puis, il est brassé par de petites chargeuses et repose pendant 2 semaines supplémentaires. Maintenant débarrassé de son odeur nauséabonde, le compost est transféré dans 6 zones bétonnées. Il y est encore arrosé durant 4 semaines, tandis que l'air est aspiré pour éliminer les gaz résiduels. La dernière étape est le raffinage, dans une section isolée du bâtiment. Ici, un labyrinthe de tuyaux rouges achemine le compost fraîchement produit vers les dernières machines de tri. Il passe par un tamis de 10 mm, puis par une plaque vibrante qui sépare les derniers contaminants lourds, roches plastiques, verre. Finalement, la poussière et les pellicules de plastique sont aspirées. La qualité finale du compost est contrôlée sur place. Les premiers tests font état d'un compost de type A, la meilleure qualité qui soit, avec moins de 1% de contaminants. Faussement compostable. Nos bacs à compost contiennent plusieurs matières problématiques, même certaines qui sont présentées comme compostables. Il s'agit d'objets qui prennent généralement trop de temps à se décomposer. C'est le cas des sacs de plastique utilisés pour récupérer nos restants de table, qui font partie des premiers objets éliminés lors du tri au centre. S'ajoute à ça les ustensiles dits compostables qui sont difficiles à extraire à cause de leur forme et de leur poids. Il est donc conseillé de les mettre à la poubelle. Les ustensiles en bois, eux, sont réellement compostables. Autre ennemi du centre, les noyaux d'avocats. Dans ces petits, ceux-ci doivent passer plusieurs fois dans la boucle avant d'être compostés. D'ici quelques mois, une seconde usine, construite cette fois à Montréal-Est, transformera de son côté 60 000 tonnes par an de déchets organiques de l'Est de la métropole en biogaz. Reste à convaincre la population d'être plus assidue dans le tri de ces déchets. Les résidus organiques représentent encore jusqu'à 40 % du poids des poubelles québécoises, déplore Karel Ménard. Or, une fois enfouis, ils produisent du méthane et du lixivia, une sorte de jus pouvant entraîner des métaux lourds ou des matières toxiques dans le sol. À vos bacs bruns! C'était « Visite du nouveau centre de compostage de Montréal », un texte d'Axel Dansereau-Massias, paru le 17 octobre 2024 dans Québec Science.
Une nouvelle technologie pour se sortir de l'eau. Un texte de Bertrand Godin, paru le 4 novembre 2024 dans La Presse. Il arrive à tout conducteur, un jour ou l'autre, de s'imaginer un scénario catastrophe du genre « Et si le pont cédait soudainement sous mes roues, comme ce fut le cas pour certains malheureux à Baltimore cette année? Et si... en raison d'un bris mécanique ou d'une manœuvre involontaire, son véhicule quittait subitement la route et sombrait dans cette rivière ou dans le fleuve. Que faudrait-il faire pour parvenir à se dégager du véhicule et sauver sa peau? Et en combien de temps? La scène est angoissante, on en conviendra. Car, avec la pression de l'eau sur une voiture qui sombre sous l'eau, il est en effet pratiquement impossible d'ouvrir les portes. Et si les systèmes électriques ne fonctionnent pas correctement, les fenêtres ne fonctionneront pas non plus. Ceux qui ont déjà songé à ce type de scénario seront certainement heureux d'apprendre que pour une totale paix d'esprit à ce sujet, une nouvelle technologie a récemment vu le jour. Une technologie qui peut sauver des vies, on aime toujours. Le tout a été mis au point par la société AWOS Technologies, AWOS, pour Automatic Window Opening Systems, qui a imaginé un système d'évacuation rapide du véhicule. Son procédé va comme suit. Si une voiture est submergée et qu'elle est équipée de cette technologie, le système abaissera automatiquement les fenêtres. Dès que le véhicule touche l'eau, il abaisse les vitres en 5 secondes, promet l'entreprise, pour permettre aux gens de sortir rapidement du véhicule en toute sécurité. Sauf si le véhicule n'est pas dans une bonne position. Le système détectera effectivement si le véhicule est immergé à l'envers ou à l'endroit grâce à des capteurs intelligents. Dans le cas où le véhicule serait à l'envers dans l'eau, les fenêtres resteraient fermées jusqu'à ce que le véhicule se redresse, ce que toute voiture fera automatiquement. Et pourquoi donc garder les fenêtres fermées? Parce que lorsqu'un véhicule est à l'envers, si les fenêtres s'ouvrent, il coulera à pic. Autre avantage à ne pas dédaigner, le système se connectera directement au service d'urgence. Voilà qui évite une erreur courante, celle d'avoir le réflexe de vouloir appeler de l'aide sur son téléphone cellulaire, faisant perdre ainsi de précieuses minutes à la personne en danger. Si cette personne sait que les urgences sont déjà contactées, elle passera à l'action plus rapidement pour sortir de l'eau illico. Enfin, le système déjoue le problème des vitres incassables propres à certaines marques de voitures. Sinon, pour les véhicules qui ont des vitres cassables, ça évitera bien quelques blessures. Le tout donne une technologie rassurante qui aide les conducteurs et les passagers à sortir du véhicule sous l'eau en toute sécurité. Tous les véhicules sont adaptés pour accueillir le dit système. Traditionnels, hybrides et électriques, tous les véhicules peuvent être équipés de cette technologie. Ce système sera installé précisément à l'endroit où l'eau devrait apparaître en premier lorsqu'un véhicule est submergé, le compartiment moteur lourd. Issu d'un cas vécu. Il suffisait d'y penser. Et Sabrina Percher l'a fait. Or, on peut dire qu'elle a eu une belle motivation pour développer cette technologie. Elle a, en effet, elle-même, vécu de près un scénario cauchemardesque, non pas dans son imagination, mais dans la vraie vie. Cela s'est passé en 2009. Lorsqu'elle vivait en Arabie Saoudite, le mari de Mme Percher a vu son véhicule être prise au piège d'une crue soudaine. Madame Percher affirme qu'elle n'oubliera jamais l'appel téléphonique lui annonçant que son mari était coincé dans son véhicule et que l'eau montait autour de lui et de son véhicule sans qu'il puisse faire quoi que ce soit pour parvenir à s'en sortir. Par bonheur, l'histoire se termine bien, puisque l'homme a été tiré d'embarras par des secouristes. Par contre, tous n'ont pas eu cette chance. Là où le mari de Mme Percher a survécu, des centaines d'autres personnes ont trouvé la mort. À partir de cet événement, Sabrina Percher s'est concentrée sur le développement d'une solution technologique qui pourrait faire en sorte que plus jamais une telle situation ne se produise. À ce jour, la technologie est bel et bien développée et l'entreprise AWOS espère bien que son système pourra devenir obligatoire dans tous les véhicules. L'entreprise vise un horizon de 3 à 5 ans. Et effectivement, à titre de conducteur, on ne peut que souhaiter que le système soit réglementé et qu'il se retrouve bientôt sur tous les véhicules. Ne serait-ce que pour évacuer tout scénario catastrophe de notre esprit. C'était une nouvelle technologie pour se sortir de l'eau. Un texte de Bertrand Godin paru le 4 novembre 2024 dans La Presse.
Taux de diplomation record au Nunavut en 2024, un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans le Nunavoie. L'année scolaire 2023-2024 a célébré la réussite de 301 finissants du secondaire au Nunavut, ce qui constitue un nouveau record pour le territoire. De ce nombre, 64 diplômés étaient d'Iqaluit, 50 d'Arviat et 24 de la communauté de Rankin Inlet. La répartition régionale des 301 diplômés du Nunavut est composée de 44 étudiants dans la région de Kitikmeot, 115 dans la région de Kivalik et 142 dans la région de Kikiktani. En raison des périodes d'appel et de reprise des examens, le nombre officiel pourrait légèrement changer et sera confirmé d'ici le 31 décembre 2024. Le taux brut d'obtention du diplôme, qui est calculé en divisant le nombre de diplômés par le nombre de jeunes de 17 et de 18 ans au Nunavut, est ainsi établi à 44% pour 2023-2024. Des mesures pour augmenter le nombre de finissants. Le nombre de finissants du secondaire a pratiquement été le même pour les années 2021-2022 et 2022-2023 au Nunavut, avec respectivement 262 et 261 diplômés. L'année 2024 marque donc une hausse significative de 40 étudiants ayant terminé leur parcours, les menant jusqu'à la fin du secondaire. Le ministère de l'Éducation est très fier de tous ces diplômés. Ils ont travaillé très dur pour atteindre une étape aussi importante. Nos enseignants dévoués et assidus ont également joué un rôle dans ce nombre record de diplômés et nous les remercions de leurs efforts, dit Matthew Ilasevich, directeur de la division de l'engagement des parties prenantes au ministère de l'Éducation. Dans l'objectif d'offrir une chance égale à tous les jeunes Nunavumiut, le ministère affirme offrir le même programme d'études et les mêmes possibilités à toutes les écoles du Nunavut, et ce, quelle que soit la communauté. Plusieurs actions pour augmenter le taux de diplomation sur le territoire sont effectuées, dont un travail de collaboration avec les administrations scolaires de district et la commission scolaire francophone du Nunavut afin d'élaborer des initiatives de persévérance scolaire pour favoriser l'assiduité. L'exploration des options de carrière et la planification commencent dès le plus jeune âge et sont essentielles à l'efficacité d'un programme d'éducation, ce qui peut contribuer à l'augmentation des taux d'obtention de diplômes et à l'augmentation du nombre d'étudiants cherchant à faire des études post-secondaires, poursuit Matthew Ilasevich. Dès la 9e année, les élèves élaborent leur plan d'apprentissage au niveau secondaire et post-secondaire et explorent les possibilités de carrière en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités. Des cours d'expérience de travail et des programmes d'observation sont aussi disponibles. C'est sous le thème « Kilaut et Katuk, les élèves et les enseignants-enseignantes donnent le rythme à notre avenir » que s'est tenue du 29 septembre au 5 octobre dernier la semaine de l'éducation du Nunavut. Comme le Kilaut et le Katuk dépendent l'un de l'autre pour créer une belle musique, les élèves et les enseignants-enseignantes comptent les uns et les unes sur les autres pour favoriser un environnement d'apprentissage harmonieux. Les deux sont essentiels pour donner le rythme à une communauté scolaire vivante et épanouie, peut-on lire dans un message publié sur le site web du gouvernement du Nunavut. Le gouvernement territorial s'engage à mettre en place un système d'éducation holistique et solidaire qui est inclusif et qui répond aux besoins et aux forces des élèves. Chaque école dispose d'une équipe pour soutenir les élèves et travaille en collaboration avec les parents et tuteurs pour favoriser un environnement d'apprentissage harmonieux, menant à une communauté scolaire dynamique et prospère. De plus, le département utilise l'enseignement différencié dans le cadre d'un système d'éducation inclusif pour répondre aux besoins de chaque apprenant et s'assurer que tous ses élèves ont une chance de réussir, soutient Matthew Ilasevich. Le Nunavut, encore loin derrière. Les taux d'obtention du diplôme d'études secondaires dans le délai prévu et dans un délai plus long chez les jeunes Canadiens en 2021-2022 ont été diffusés par Statistique Canada le 22 octobre dernier. Au pays, en excluant le Nunavut, le taux d'obtention du diplôme secondaire dans le délai prévu pour l'année 2021-2022 est de 84 % et de 91 % dans un délai plus long. Bien que le Nunavut ait participé par le passé à cette collecte de données, un manque de ressources a fait en sorte que le ministère n'a pas été en mesure de soumettre les résultats permettant de compiler les taux d'obtention du diplôme depuis l'année scolaire 2016-2017. Ils ont comme objectif premier de pouvoir participer au prochain cycle de collecte. Nos partenaires au Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, CMEC, responsables de ce volet de notre programme des indicateurs de l'éducation, travaillent étroitement avec eux pour les assister et leur porter main forte. Cependant, nous ne savons pas quand ou même si ils seront en mesure de soumettre leurs données dans un futur rapproché, informe Annick Irakoze des relations avec les médias pour Statistique Canada. C'était « Taux de diplomation record au Nunavut en 2024 », un texte de Karine Lavoie, paru le 6 novembre 2024 dans le Nunavoie.